Ndekeluka. À Bozoum, il est 13h, même heure à Sédalé. Il est 13h dans le studio de Radio Ndekeluka, le journal de la mi-journée avec Inès Lorangopo. Inès, bonjour.
Bonjour Gisla, bonjour à tous. Les titres. À Bangui, la plupart des véhicules de terrain de la police sont en panne, une situation qui réduit la capacité opérationnelle de la police centrafricaine. Le point au début de ce journal. Au sommaire également, cet arrêt en Centrafrique de la ligne fixe de Socatel depuis plus de 6 mois, un danger de sécurité nationale, mais aussi un manque à gagner pour l'État. Et puis, montée inquiétante de l'insalubrité à Bossangwa, chef-lieu de l'Ouam, Pierre Denam-Guerré, maire de la ville, tire la sonnette d'alarme. Football éliminatoire qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La liste des 24 fauves qui iront à un stage bloqué à Niamey au Niger est déjà connue depuis hier. Ouvrons ce journal avec ce constat amer dans les commissariats de Bangui. Ces services de la police sont confrontés aujourd'hui aux problèmes de mobilité et d'équipement. La quasi-totalité des véhicules de terrain sont en panne, une situation qui réduit la capacité opérationnelle de la police centrafricaine. Un dossier signé Karine Estelbibé.
La situation est presque identique dans tous les commissariats de la capitale. La police dite de proximité est dépourvue de moyens roulants. Conséquence, cette police ne peut répondre à la demande de la population en cas de besoin. Dans 5 commissariats sur 8 que nous avons visités, le constat est presque le même. Tous les véhicules de terrain fournis par l'Union européenne depuis 2014 sont quasi inexistants car la majorité est tombée en panne. En plus de ce problème de mobilité, les équipements dont disposent ces forces de sécurité sont en état de vétusté et même insuffisants. Face à toutes ces difficultés, certaines sources proches de la police nous confient que les agents mènent les opérations à bord de mototaxis dont la prise en charge incombe aux plaignants. Une situation qui ne permet pas à ces policiers d'intervenir la nuit en cas de nécessité. D'après les mêmes sources, chaque commissariat devrait naturellement disposer de 2 voire 3 véhicules pour des interventions. Tel n'est pas le cas pour le moment. C'est ce que regrettent ces centrafricains.
Les policiers, ils n'ont pas de véhicule pour faire déplacement. S'il y a un cas urgent dans notre quartier, si on appelle de venir très rapidement, eux, ils n'ont pas de véhicule.
Et ça, c'est inacceptable pour la police centrafricaine, censée vraiment garantir la sécurité de la population. Si la population est attaquée, on fait appel à la police, il appartient à la police de venir.
Reconnaissant ces difficultés, le gouvernement de son côté parle de dotation progressive des forces de sécurité intérieure. Ange-Maxime Kazagui, son porte-parole.
Nous équipons progressivement les commissariats. Nous équipons en tout cas la police et les forces de sécurité progressivement en fonction des moyens que nous pouvons mettre dans cette assistance, disons dans cet équipement, et en fonction des assistances qui viennent de nos différents partenaires. Ça prendra encore du temps, mais ça fait partie des objectifs principaux du gouvernement.
Aujourd'hui, le manque ou encore l'insuffisance des moyens de travail dans les commissariats empêche les policiers d'être plus proches de la population.
Merci à vous, Karine Estelbébé.
Les centrafricains déplorent la rupture de la ligne fixe de la Socatel, l'opérateur historique des télécommunications dans le pays.
C'est depuis plus de 6 mois que cette situation perdure. Aujourd'hui, il devient impossible aux institutions, aux représentations diplomatiques, aux sociétés, voire certains particuliers, d'utiliser la ligne de la Socatel. Un danger de sécurité nationale, mais aussi un manque à gagner pour l'État. Igor Diaskin-Sinapay a enquêté sur ce problème.
Cette rupture de la ligne fixe de la Socatel est due à la vétusté des installations de cette société d'État. Cette situation impacte non seulement le bon fonctionnement des services publics, mais aussi des organisations privées. À titre d'exemple, le centre opérationnel commun de la gendarmerie et la police est affecté. Plusieurs directions générales des services de la sécurité et les différentes administrations publiques ne sont pas épargnées. Ces centrafricains rencontrés dans la rue expriment leur inquiétude.
C'est un grand problème qui pénalise la société centrafricaine. Chaque ministère et chaque organisation ou bien chaque société qui s'installe ici doit bénéficier de Socatel. C'est un peu vraiment étonnant pour nous.
Nous demandons en tout cas à notre autorité et surtout au président de la République afin qu'il puisse voir ce qui se passe au niveau de la Socatel, afin qu'il puisse mener des démarches auprès des bailleurs pour financer notre société Socatel, afin qu'il puisse être en marche et être vraiment fonctionnel.
Jean-Pierre Marat, député de Mala et diplômé dans le domaine des télécommunications, n'admet pas une telle situation dans un pays faible comme la RCA. Kabila.
C'est une erreur monumentale de penser qu'un pays comme le nôtre peut vivre sans ligne de téléphone fixe. Les ambassades, les ministères, les hôpitaux, tout ce qu'il y a comme administration a besoin d'un réseau qui fonctionne. Aujourd'hui, le monde entier tire beaucoup de bénéfices des télécommunications. Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? Alors qu'une centrale téléphonique aujourd'hui est simple à mettre en œuvre, le problème de la Socatel est facile à résoudre. Mais il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup d'intérêts. Et il faudrait peut-être qu'un jour le président de la République frappe sur la table, qu'il nous réunisse, nous les spécialistes, et qu'on trouve une solution définitive à la Socatel.
La direction générale de la Socatel que nous avons contactée ne souhaite pas pour l'instant se prononcer sur la question. Le personnel de cette société d'État, quant à lui, cumule plus de 112 mois d'arriéré de salaire. Selon nos informations, la dette de la Socatel sur l'État dépasse 3 milliards de francs CFA. En plus de cela, la rétrocession de la colline des Panthères à la Socatel pose encore problème malgré un procès remporté devant la justice au détriment du ministère de la Communication.
Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et ses partenaires entendent redynamiser le développement intégral du jeune enfant en Centrafrique.
Ces assises ont été closes vendredi dernier à Bangui avec cette thématique. Le point avec Bonaventure Ngumbakatika.
Ils se sont séparés après avoir adopté de nouvelles stratégies à mettre en application pour parvenir à l'édification intellectuelle et sociale de l'enfant conformément au modèle ivoirien. Sophie Ndangere, responsable de l'éducation à l'UNICEF.
Le DIGE est un programme qui avait été vraiment très appuyé de 2004 jusqu'en 2008 dans la sous-préfecture de Boda parce que c'était la phase pilote développée avec l'appui de toutes les agences. L'appui de l'UNICEF dans la coordination, dans la mobilisation communautaire. L'OMS s'était investi dans le domaine de la santé, de la vaccination des enfants, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant.
Jonas Nangola, directeur de la planification et du développement social au ministère du Plan, fait constater que le manque de prise en charge des moniteurs chargés du DIGE a été à l'origine des difficultés de ce projet pilote.
Il y avait question de prise en charge des acteurs, notamment les prestataires. Il s'est avéré que la communauté qui devait s'engager pour motiver les prestataires, ceux qui sont appelés à encadrer les enfants, ils n'ont pas été motivés. Et du coup, il ne pouvait pas fournir ses prestations. Et c'est ce qui a fait en sorte que le DIGE ne pouvait pas continuer comme il se doit. Les objectifs fixés ne pouvant pas être atteints.
Le développement intégral du jeune enfant avait été expérimenté à Boda, dans la Lobaye, depuis 2004. Malheureusement, ce projet pilote était confronté à un échec à cause de la crise militaro-politique en République centrafricaine.
Autre point de l'actualité, le groupe Ouamou, c'est le nom d'une nouvelle ONG nationale.
Elle a officiellement inauguré son siège samedi dernier à Bangui. Cette organisation a pour but de développer l'agriculture, l'élevage et des activités génératrices de revenus à Samba sur la route de Mbaïki. Emmanuel Sambouli, reportage.
Après 2 ans d'existence non officielle, le groupe Ouamo dispose désormais d'un siège et peut se lancer dans ses activités. Elle a déjà fait plusieurs réalisations en attendant l'appui de ses partenaires marocains. L'ONG dispose de 30 hectares de terres cultivables, dont 5 hectares seulement sont exploités. On y trouve des cultures de maïs, d'arachides et de bananiers. Dans 2 mois, le groupe Ouamo entend construire un bâtiment pour l'élevage des poussins. Stanislas Yamale, son directeur pays.
Si vous voyez aujourd'hui, nous sommes à Samba, c'est pas au hasard, c'est que nous avons réfléchi longuement après 2 années de réflexion et vous voyez cette réalisation. C'est pour nourrir la République centrafricaine. Les 2 années, nous avons eu à faire la culture des maïs et arachides. Vous voyez, cette parcelle est vraiment étendue. Ici, là, nous avons 30 hectares. Mais nous n'avons pas les moyens nécessaires pour occuper toute cette portion. Donc là, présentement, nous utilisons que 5 hectares. Nous avons les maïs et arachides pour la deuxième saison. Donc derrière moi, vous voyez, et à côté, ce sont les arachides. Et de l'autre côté, nous avons aussi le manioc et les bananes plantains.
Saint-Pierre Mahamat, représentant du ministre de l'Agriculture, au lancement des travaux de cette organisation, souhaite que cette ONG soit un vrai outil de développement.
Il faut que l'ONG se développe, il faut que l'ONG se valorise. Parce qu'il y a des ONG qui se créent et puis il y a beaucoup de problèmes, il y a dislocation, tout ça. Mais j'aimerais que cette ONG, comme ce sont des intellectuels, il faut que cette ONG soit bien fondée. Soit bien fondée et puis qu'il y ait une avancée significative dans ses activités. Et puis qu'il y ait une réalisation palpable. Et puis qu'il y ait des impacts aussi sur le terrain.
L'ONG Groupe Wamo dispose d'autres parcelles de plus de 200 hectares à Kapou 2 et à Pissa dans la Lobaye. Elle compte aussi les exploiter d'ici peu.
La suite de cette édition nous conduit à Bossangwa, chef-lieu de l'Ouam, avec cette montée inquiétante de l'insalubrité.
Suite aux pluies irrégulières qui se sont abattues ces derniers temps, la ville est envahie par de hautes herbes. Pierre Denam-Guerré, maire de cette localité, tire sur la sonnette d'alarme pour éviter les conséquences qui pourront en résulter. Il est au micro de notre correspondant Raphaël Nganari.
Les natifs de Bossangwa qui sont à Bangui, ils ont occupé beaucoup de parcelles dans la ville, mais malheureusement, ils ne nettoient jamais le terrain. À la saison pluvieuse comme ça, nous sommes tellement dérangés par les salubrités. La ville est sombre. Je lance un appel à nos frères qui sont à Bangui de venir nettoyer leurs parcelles. Je leur dis, s'ils ne veulent pas nettoyer, je dois faire une correspondance au service de domaine à ce que le service de domaine récupère leur concession pour la population. Avec le service d'hygiène, on va travailler ensemble quartier par quartier pour voir ceux qui ne veulent pas nettoyer leur quartier, le leur mettre à la disposition de la gendarmerie ou de la police à ce qu'ils paient les amendes pour que la ville soit en règle.
La session criminelle se poursuit à la cour d'appel de Bangui.
Ce mardi, le gendarme Adoum Youssouf est présenté devant la barre. Il est reproché pour 5 chefs d'accusation, à savoir l'association des malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, vol à main armée, destruction de biens à autrui et tentative d'assassinat.
Hors du pays, au Mali, la Cour pénale internationale a confirmé hier lundi des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à l'encontre de Al-Hassan, un djihadiste malien et annonce l'ouverture de son procès.
Al-Hassan est accusé par la cour d'avoir participé en 2012 et 2013 à la démolition de tombeaux dans la ville malienne et d'être responsable de viols et d'esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé. Des accusations de torture pèsent également contre le djihadiste qui a été remis en avril 2018 à la CPI par des autorités maliennes et transféré au centre pénitentiaire de la cour à La Haye.
Ce mardi 1er octobre marque les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine.
À Pékin, un grand défilé militaire a marqué cette célébration. Ici à Bangui, l'ambassade de Chine organise ce soir une grande réception. La page sport de cette édition, c'est avec vous, Henri Vénal. Quoi répéter, bonjour.
Bonjour Inès, confort d'écoute à tous.
Football, un compromis a été trouvé hier entre le ministre et le président de la fédération au sujet du nouveau sélectionneur des Fauves, François Zaoui.
L'Ivoirien va donc entraîner les Fauves lors des deux prochaines rencontres du mois de novembre. La RCA est dans le même groupe que le Burundi, la Mauritanie et le Maroc.
On fait le point avec vous, Henri Vénal. Quoi répéter.
Au sorti de la rencontre qui s'est tenue hier au ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministre Régis Lionel Doundo rassure l'opinion de l'effectivité de la prise de fonction de François Zaoui.
Le malentendu est lessivé. Cependant, j'ai instruit pour que la procédure normale pour le recrutement d'un sélectionneur soit enclenchée. Et donc, dans les prochains jours, cette procédure doit être mise en route. Entre-temps, comme j'ai dit à la Fédération, je prends acte de la désignation de François Zaoui comme solution intermédiaire.
Le président intérimaire de la Fédération centrafricaine de football, Célestin Yanindi, souligne l'incompréhension qui était venue d'un déficit de communication.
La communication au niveau de notre institution, au niveau de la Fédération centrafricaine de football, n'a pas été parfaite non plus. Le ministre n'a pas eu la primeur de l'information que la presse a publiée et nous nous en excusons. Donc je pense que sur cette période d'intérim, je pense que M. Zaoui est au travail et je pense qu'aujourd'hui le ministre a compris la préoccupation qui est celle de la Fédération centrafricaine de football qui concerne essentiellement les mesures à prendre pour anticiper, pour faire une bonne préparation.
François Zaoui sera secondé de Brice Abdoulaye, le sélectionneur de Fauves locaux. La mission de ces deux techniciens, coacher l'équipe nationale de football pour les deux prochaines rencontres, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021.
Juvenal, toujours au sujet de ces éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, la liste des 24 Fauves qui iront à un stage bloqué à Niamey au Niger du 8 au 15 de ce mois a été rendue publique hier.
Une liste de 24 parmi lesquels on retrouve 7 joueurs locaux et 4 nouveaux venus. On retrouve 3 joueurs de AS Tempête Mokaf que sont Elvis Samola, le défenseur Régis Mbongo-Touté et le milieu de terrain Trésor Toropité. 2 joueurs de Jean de Fatima et 2 autres de DFC 8 font aussi partie de la liste. Les défenseurs Sir Ngamgam et Thibaut Bon et les milieux de terrain Junior Gourier et Saint-Fort Dimokoyen. Les 4 nouveaux venus sont Donald Benamna, l'attaquant de Seattle Town aux États-Unis d'Amérique, Arnaud Tatevin, l'attaquant du Stade Rennais en France, Wilfried Zaibo, devenu anglais aux États-Unis d'Amérique aussi, et Jordan Damachua qui évolue au Reykjavik en Finlande.
Démarrage ce matin à Bangui des séances d'entraînement des fauves locaux au Stade Barthélemy Bouganda.
Il prépare le match retour face à la RDC le 20 octobre prochain à Kinshasa. La séance est programmée à partir de 10h du lundi au vendredi. En même temps, les U20, c'est-à-dire les moins de 20 ans, aussi poursuivent leur préparation. Ils joueront la Coupe de l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale à Bangui. Le mois prochain, les fauves filles de leur côté doivent en principe quitter Bangui demain pour la Guinée équatoriale où se déroulera du 4 au 13 octobre la Coupe de l'UNIFAC.
Merci à vous Henri Juvenal Kouer et PD. C'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Luka.